Bonsoir à toutes et à tous. Ils iront partir devant ce micro pour parler de l'actualité sportive dans ce programme sur VOA Afrique. Et pour cela, je serai avec mes consultants qui sont déjà en ligne. Le tout premier à Medine Si, en direct de Columbus dans l'Ohio. Bonsoir Medine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Amine Birouk est à Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Jules Valentin Ngwe est lui à Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis, depuis la capitale béninoise Porto Novo, Lawal Tinkosuro. Bonsoir Lawal.
Bonsoir Élisée, bonsoir aux auditeurs de VOA Afrique.
Ce soir, nous allons parler de l'Euro, de la Copa América et du tirage au sort de la CAN de 2025. Bienvenue à tous. Plus que 3 matchs et on connaîtra le vainqueur de l'Euro 2024 en Allemagne. Mais avant, on va assister aux 2 demi-finales France-Espagne et Angleterre-Pays-Bas. Alors, Amine, 2 classiques qui promettent au vu de ce que les 4 sélections ont montré jusque-là.
Tout d'abord, ce sont 2 confrontations avec des styles diamétralement opposés. Il y a tout d'abord l'équipe d'Espagne qui est très joueuse en face du bloc des Bleus. La Roja proposait un des footballs les plus chatoyants de la compétition, très offensif, beaucoup de panache avec 11 buts marqués, seulement 2 concédés. 2 révélations, Lamine Yamal et Nico Williams, un milieu de terrain qui est capable de prendre le jeu à son compte. Une équipe qui peut également avoir un plan B puisqu'elle peut se laisser aspirer et procéder par contre. Et en face, il y a l'équipe de France qui ne joue absolument à rien du tout sur le plan offensif. On l'a vu depuis le début de la compétition, les joueurs de Didier Deschamps sont très critiqués. Preuve en est, ils n'ont marqué que 3 buts, dont 2 contre leur camp, que ce soit lors du match contre l'Autriche ou face à la Belgique, et le pénalty de Kylian Mbappé. La France vaut par la qualité de son bloc défensif avec Maximilien, avec la charnière Saliba ou Upamecano, avec les 2 latéraux, Koundé, qui n'est pas un latéral de métier mais qui fait le job, et Théo Hernandez, plus un milieu de terrain où la solidité compense le manque d'imagination souvent. Et puis dans l'autre demi-finale, il y a les Pays-Bas qui sont revenus du diable vauvert face à la Turquie et qui a prouvé qu'elle avait de la ressource, des qualités offensives avec Gakpo en particulier, qui est le meilleur buteur de la compétition. Et puis en face, il y a cette équipe d'Angleterre qui est une véritable énigme, puisque c'est une constellation d'individualités, mais qui n'arrive pas à attirer le maximum du potentiel offensif qu'elle possède avec Harry Kane, avec Bellingham, avec Foden, avec Bukayo Saka. Ce dernier peut être le plus en forme de ce quatuor d'artistes. Et puis il y a un entraîneur qui est très critiqué, Gareth Southgate, mais pour l'instant, les résultats priment et l'Angleterre est toujours en lice pour un premier titre européen. D'ailleurs, les Three Lions n'ont rien gagné depuis la Coupe du Monde, leur seul titre de gloire remporté en 1966 à Rome. Et ce sera peut-être l'occasion pour eux d'enfin inscrire leur nom dans les annales du championnat d'Europe des Nations.
Jules, le tableau commence à s'éclaircir. 2 affiches comme une finale.
En effet, Élisée, et malgré un nivellement de valeur par le haut, tout au long de la compétition, qui s'est d'ailleurs illustrée par de nombreuses victoires ou qualifications à l'arraché, les affiches des demi-finales sont des classiques au sommet opposant des nations européennes régulièrement couronnées dans les plus grandes compétitions mondiales. Seule l'Allemagne manque à l'appel, car il fallait bien un vaincu lors du quart de finale de la mort, l'opposant à l'autre co-recordman des victoires dans l'Euro, l'Espagne, dans un duel qui s'est achevé dans une finale dramatique et frustrante pour le pays organisateur. La première demi-finale va donc opposer mardi la France, double championne d'Europe et du monde, à l'Espagne, championne du monde en 2010 et triple championne d'Europe, dans une rencontre entre la défense la plus hermétique et l'attaque la plus imaginative, tout ceci sur le théâtre mythique de l'Allianz Arena de Munich. La clé du match est dans le scénario de la rencontre, car malheur à celui qui encaissera le premier. La deuxième demi-finale, entre l'ancien champion du monde anglais et l'ancien champion d'Europe néerlandais, tous les deux en quête de rachat et de retour au premier plan, va se dérouler le jour suivant à Düsseldorf. C'est le match des Alpsader, plus libérés, souvent portés vers l'avant et qui sont progressivement montés en puissance. Ici, il n'y aura pas d'opposition de style, mais une bataille physique et généreuse dans le pur style de l'Europe du Nord. Pour se résumer, dans les deux cas, tout pronostic est interdit. Mais l'affiche de la finale sera belle.
Lawal, toujours muet devant les buts et toujours aussi imperméable, les Bleus devront faire mieux face à la meilleure attaque du tournoi.
Oui, Élisée, la grosse déception de cet Euro, c'est donc l'équipe de France qui peine à trouver le chemin des buts. Les attaquants sont restés muets. Et donc les Français ont besoin de montrer tout ce qu'on connaît d'eux. Finaliste de la dernière Coupe du Monde, finaliste de la dernière Euro, il faut le dire aussi. Donc les Français ont besoin donc de justifier leur rang en tant que deuxième meilleure nation en Europe pour les différentes compétitions. Donc jusque là, Mbappé et les siens n'ont pas encore trouvé la meilleure formule, mais on espère qu'avec l'Espagne qui est la meilleure attaque, avec ce jeu plaisant, assez intéressant de l'Espagne, les Français doivent pouvoir sortir le grand jeu. Les Espagnols ont sorti les Allemands, les grands Allemands de cette compétition. Les Français ont intérêt à faire attention. Et je dis que l'équipe qui va remporter entre la France et l'Espagne sera championne d'Europe.
Le match est prévu demain mardi à partir de 19h, temps universel. La seconde demi aura lieu le lendemain à Médine. L'Angleterre, toujours considérée comme favorite, est proche de son objectif. Mais pour cela, elle doit écarter les Pays-Bas.
Tout à fait, Élisée. Les Anglais qui sont vice-champions d'Europe sont considérés comme les favoris de cette compétition. C'est vrai qu'ils sont proches de leur objectif, mais je pense que c'est une affiche palpitante entre deux bonnes formations. Pour arriver à ce stade de la compétition, les Anglais ont démontré qu'ils avaient du caractère en renversant en quart de finale la Slovaquie. Avant d'écarter les Suisses après la série de tirs au but, certes, comme tout le monde le pense, l'Angleterre qui compte dans ses rangs le meilleur buteur de la Bundesliga, Harry Kane, le meilleur buteur aussi et le meilleur joueur du championnat anglais, Phil Foden, le meilleur joueur du championnat espagnol, Bellingham, sont des joueurs qui sont très attendus, mais pour le moment ils n'ont pas encore convaincu. Donc les Three Lions seront très attendus pour cette demi-finale, mais ce sera extrêmement difficile car ils auront en face une très bonne formation néerlandaise qui a renversé la Turquie en 6 minutes lors des quarts de finale. Cela pour vous dire simplement qu'on va vers une affiche alléchante entre les Anglais et les Néerlandais. Élisée.
La Copa América aussi connaîtra ses deux finalistes au terme des deux demi-finales prévues dans la nuit de mercredi et de jeudi. Amine, l'Argentine fera face au Canada et la Colombie face à l'Uruguay tombeur du Brésil en quart.
Et ce qu'on pourrait assurer, c'est que l'Argentine a dû suer grosse coûte pour pouvoir se qualifier face à l'Équateur, une qualification au tir au but avec un Dibu Martinez égal à son image et égal à son talent, qui a arrêté deux pénaltys, surtout sauvé la mise à un Messi qui avait raté son pénalty, son tir au but, à la suite d'une tentative complètement manquée de Panenka. Mais l'Argentine a assuré l'essentiel et l'Argentine est configuré comme le favori numéro 1 de la compétition. On retrouvera le Canada, adversaire qu'elle avait affronté au tout premier tour. Un Canada qui n'en continue pas moins de surprendre et qui a su tirer son épingle du jeu encore une fois dans cette compétition en étant un peu le trouble-fête avec notamment l'excellent Davis, le joueur du Bayern Munich, convoité notamment par de nombreuses écuries, surtout par le Real Madrid. On a vu tout vu, sauf du football, lors du Uruguay-Argentine, avec beaucoup de jeux durs, beaucoup d'interruptions, un expulsé suite à une agression sur Rodrigo, le joueur du Brésil, et encore une fois, les Oliverdés qui sont malheureux ou maladroits à l'exercice des tirs au but avec les ratés de Douglas Luiz et de Militao. L'Uruguay peut être potentiellement l'autre finaliste de la Copa América avec l'état d'esprit insufflé par Marcelo Bielsa, la présence de piliers comme Darwin Núñez ou Valverde. Mais attention, cette Colombie où un certain James ressuscité continue à orchestrer le jeu. On l'a vu encore une fois face à Panama avec ce succès 5-0. Ce qui est certain, c'est que nous aurons deux rencontres très intéressantes aux antipodes du style de jeu que l'on voit à l'Euro, par exemple. Il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de virilité, dans le bon sens et parfois dans le mauvais sens du terme. Et ce qui est certain, c'est que il y a l'Argentine qui est au-dessus du lot, et derrière, il y a deux outsiders sérieux, à savoir l'Uruguay et la Colombie qui en découdront, et puis le cendrillon de la compétition, le Canada, qui est l'heureuse inspiration de cette Copa América.
Une fois encore, le Brésil n'a pas convaincu en Copa. Amédine, son bourreau, c'est l'Uruguay qui jouera en demi la Colombie en démonstration face au Panama.
Ah oui, Élisée, le Brésil n'a jamais su se montrer à la hauteur de son statut dans cette compétition. Les coéquipiers de Vinicius Junior, suspendus lors de ses quarts de finale face à l'Uruguay, se sont cassés en les dents après la série de tirs au but 4-2. Mais il faut dire que on a assisté à un match heurtant, parfois même violent, surtout du côté des Uruguayens, qui ont d'ailleurs commis 26 des 41 fautes durant ce match. Les hommes de Bielsa ont d'ailleurs terminé cette rencontre à 10 après l'expulsion de Nandez pour un tacle non maîtrisé sur la cheville du Madrilène Rodriguez, c'était à la 64e minute, mais les Brésiliens, malgré leur supériorité numérique, n'ont pas su faire la différence à cause d'un jeu sans idée ni jeudi. L'Uruguay, qui a donc éliminé le Brésil, rencontrera en demi-finale la Colombie de James Rodriguez, une équipe très très homogène qui a corrigé le Panama sur le score de 5-0. Donc cette demi-finale sera très attendue puisque l'Uruguay fera face à une séduisante équipe de la Colombie qui a marqué les esprits avec cette belle victoire lors des quarts de finale. Élisée.
La première demi-finale se jouera entre l'Argentine et le Canada qui a sa toute première participation à cette Copa. Alors, Lawal, les hommes de GC Morsch tenteront de prendre leur revanche sur le tenant du titre.
Oui, c'est pas nouveau que dans les mêmes groupes que une équipe batte l'autre et que dans les matchs à élimination directe, que ça soit le contraire. L'Argentine, c'est un cran au-dessus du Canada, ça se comprend. Léo Messi et toute sa bande vont certainement chercher à rempiler. Mais dans le jeu, les États-Unis sont partis représentants de l'Amérique du Nord. Le Canada est encore en lice. Le Canada va vouloir forcément pour cette première participation montrer qu'il n'est pas venu en victime expiatoire. 1-0 en match de poule, c'est intéressant pour l'Argentine, mais aujourd'hui le Canada va forcément chercher à faire mieux que le match de poule et le match sera assez serré. Léo Messi et compagnie doivent forcément faire attention. S'ils se confortent dans leur victoire de match de poule et qu'ils ne font pas quelque chose qui doit être assez intéressant, ils auront forcément à regretter donc leur match. Mais connaissant l'Argentine, à cette étape de la compétition, ils ne vont pas vouloir lâcher prise. Le Canada a intérêt à faire attention aussi.
Jules, si la logique a été respectée en Europe, enfin, il n'y a pas eu de surprise. Ce n'est pas le cas en Copa où le Brésil paye son manque de constance.
Élisée, le manque de constance du Brésil que tu dénonces dans cette Copa América est réel. Mais il n'est pas nouveau pour les raisons d'objectifs clairs et de préparation sportive souvent tronquées. On remarque depuis la création de cette compétition un flagrant manque d'intérêt excessif du Brésil vis-à-vis de ce tournoi. La seule exception en la matière étant la parenthèse pendant laquelle il y a eu une réelle volonté d'offrir à Neymar Junior le grand titre international qui lui manquait par rapport à son talent au niveau des nations. Résultat, comme cette fois-ci, la préparation de la Seleção au rendez-vous des États-Unis a été clairement bâclée, sans idée directrice, Par exemple, au lieu de laisser l'impression d'une équipe soudée, les joueurs pourtant talentueux en club sont lancés à chaque sortie dans l'arène comme dans une simple séance de visionnage de jeunes talents à recruter. Pire, à une époque où le nivellement de valeurs par le haut est évident et où toutes les sélections ont compris l'importance de travailler systématiquement les séances de tir au but, les Brésiliens continuent à croire que la victoire au temps de jeu leur est due, d'où les mêmes déboires aux portes des demi-finales face à l'Uruguay en Copa América, comme hier face à la Croatie à la dernière Coupe du Monde. Au bout du compte, la nonchalance du Brésil aux États-Unis a peut-être déjà fait une victime dans la course au ballon d'or de l'année, où Vinicius Junior, que tout désignait à juste titre comme bénéficiaire indiscutable du trophée, risque de passer du vert à l'orange.
On termine par le tirage au sort des groupes de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc en fin d'année de 2025. Et la Côte d'Ivoire, tenante du titre, hérite d'un groupe très abordable avec la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. Même chose, Jules, pour le Cameroun qui sera opposé à la Namibie, au Kenya et au Zimbabwe.
En fait, Élisée, même si pour des raisons diverses, les petites équipes n'existent plus, force est de reconnaître que pour une phase éliminatoire où le plus important est d'éviter les deux dernières places, le Cameroun a hérité d'une poule G très abordable dans laquelle le Kenya et le Zimbabwe, ainsi que la Namibie, lui présentent plus une opposition physique que technique, un domaine dans lequel les Lions indomptables répondent toujours présents et où leurs grands gabarits n'ont pas, sauf peut-être contre le Zimbabwe, à souffrir du jeu fin, vif, fait de contre-pieds qui les déstabilise parfois. Mais le Zimbabwe manque cruellement de réalisme dans la finition. Quant au Kenya et à la Namibie, qui préfèrent opérer en contre et en profondeur, leur schéma de jeu n'est plus une découverte, en particulier en ce qui concerne la Namibie, certes en progrès, puisqu'elle avait pris 4 points sur 6 au Cameroun lors des qualifications précédentes pour la CAN ivoirienne, où elle avait d'ailleurs passé le premier tour. En fait, le véritable adversaire du Cameroun, c'est le Cameroun lui-même, en termes de capacité à réunir ses meilleurs éléments, à leur insuffler l'esprit d'équipe et à assainir leur environnement. Sinon, l'équilibre sportif de la sélection est retrouvé.
On reste avec vous, Jules. Le Gabon est logé dans la poule du pays hôte, le Maroc, un groupe un peu particulier donc, avec un seul ticket en jeu qu'il disputera avec le Lesotho et la Centrafrique.
Élisée, c'est la principale difficulté dans ce genre de poule où il n'y a qu'un seul ticket qualificatif à prendre. Pour cela, il ne faut pas se rater dans les confrontations directes avec les sélections en net progrès qui sont déjà installées dans l'antichambre des pays souvent regroupés au deuxième chapeau des poules éliminatoires pour les qualifications. Il s'agit ici de la Centrafrique pour le groupe B. On se souvient qu'elle a passé des frayeurs au Ghana et à l'Angola dans la qualification à Côte d'Ivoire 2023. Mais le Gabon n'aura pas seulement à freiner les ambitions de ce remuant voisin, il faudra aussi se méfier de la surprenante équipe du Lesotho à qui il est souvent arrivé de surprendre dans le passé, lointain ou récent, des gros cylindrés comme le Cameroun ou le Nigeria qui l'avaient négligé. Le Gabon a un groupe stable et d'un bon niveau. Il saura prendre ses responsabilités pour tenir son rang.
Pour sa part, le Bénin affrontera dans le groupe D le Nigeria, le Rwanda et la Libye. Des adversaires difficiles selon Guénot Roy, le sélectionneur d'équipe.
Ce sont trois adversaires difficiles. Nous les connaissons, enfin deux d'entre eux déjà, pour les avoir joués il n'y a pas longtemps. Mais ce n'est pas parce qu'on les a battus que ça va être simple. On sait que c'est possible. On sait que le Nigeria, avec tous ses grands joueurs, aura envie de prendre une revanche contre nous. Mais nous avons pris confiance et je pense que ça sera un match intéressant, probablement à Ouyo au mois de septembre, avant d'enchaîner contre la Libé, probablement à Abidjan, je pense, parce que notre stade sera sûrement pas prêt encore. Et ensuite d'enchaîner en octobre et novembre. Tout se jouera en 3 mois avec les matchs contre la Libye qui vont suivre. Nous avons maintenant une équipe qui a pris forme, qui a, on va dire, une solidité, qui a aussi une complicité. Les jeunes joueurs ont commencé à faire leur place et je crois que nous sommes prêts. Nous serons prêts. Nous pourrions récupérer aussi des gens qui nous ont manqué, mais on est vraiment confiant.
Lawal, c'est un groupe jouable pour le Bénin qui doit finir à l'une des 2 premières places.
Oui, jouable pour le Bénin, certes, mais ils ont intérêt à rester dans les 2 premières places pour tenter de se qualifier. Mais quand on se rappelle un peu l'histoire du Bénin dans cette compétition éliminatoire de la CAN, les Béninois étaient bien partis pour la Côte d'Ivoire. Ils ont été battus à la dernière minute, à la dernière journée. Ils étaient bien partis pour la Coupe du Monde Qatar. Ils étaient battus à la dernière minute. Donc, ils ont intérêt à faire très attention. Je suis avec attention l'équipe béninoise qui a commencé par avoir une ossature, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'ils continuent d'avoir la rage de vaincre quand les autres équipes, et ça leur permettra de se sortir certainement de ce groupe qui, pour moi, semble être un piège. Nigeria, Rwanda, ça connaît le Bénin, mais il faudrait faire très attention pour ne pas tomber dans le piège et se laisser éliminer encore une fois.
Pour le reste, nous avons dans la poule A la Tunisie, Madagascar, les Comores et la Gambie. Groupe C, Égypte, Cap-Vert, Mauritanie et Botswana. Groupe E, Algérie, Guinée équatoriale, Togo et Libéria. Amine, le Ghana aura fort à faire dans le groupe F avec l'Angola, le Soudan puis le Niger.
Un des plats forts de ces éliminatoires de la CAN avec ce groupe assez compact. Les Ghanéens, pour l'instant, sont une véritable énigme. C'est une équipe qui est capable du pire comme du meilleur. On l'a vu lors de la dernière CAN où la formation des Black Stars a été éliminée pour la 2e fois consécutive au stade du premier tour, la surprise générale. Mais on voit que les Ghanéens sont capables aussi de moments forts lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Preuve en est leur victoire en déplacement au Mali. De l'autre côté, il y a l'Angola avec ce bloc compact qu'on a eu le privilège de voir lors de la dernière CAN et qui a réussi à s'extirper d'un groupe assez compliqué avec l'Algérie et la Mauritanie, par exemple. Un football qui allie la puissance physique de cette région de notre continent à la finesse technique héritée du Portugal, ancien colonisateur, et de la pratique de plusieurs joueurs dans le championnat lusitanien. Il y a aussi cette équipe du Soudan qu'on a vue assez à son aise lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Preuve en est, se trouve en pole position dans un groupe assez compliqué, devant le Sénégal par exemple. Et puis, pour terminer, cette formation du Niger qui est en train de surprendre sous la houlette de son sélectionneur marocain Bedou Zaki.
La RDC aussi n'a pas été épaillée avec la Guinée, la Tanzanie et l'Éthiopie. Pas trop compliqué en revanche pour le Mali, qui va jouer le Mozambique, la Guinée-Bissau et l'Eswatini. Amédine, le Sénégal qui hérite le Burkina Faso dans la poule L peut gérer le Malawi et le Burundi.
Ah oui, Élisée, le Sénégal, car Sadio Mané et ses partenaires disposant d'une bonne marge de manœuvre face à ces 2 adversaires. D'ailleurs, le Sénégal avait rencontré le Burundi. C'était lors des éliminatoires de la CAN 2017 et les Lions s'étaient imposés à Dakar par 3-0 avant d'aller s'imposer une nouvelle fois à Bujumbura sur le score de 2-0. Il y aura aussi des retrouvailles entre Lyon et Étalon, car ces 2 formations vont se retrouver 2 ans après leur dernière confrontation. C'était lors de la demi-finale de la CAN 2022 qui s'est déroulée au Cameroun. Le Sénégal qui a remporté pour la première fois de l'histoire de cette Coupe d'Afrique avait écarté les Étalons du Burkina Faso en demi-finale sur le score de 3-1. D'ailleurs, pour la première journée, les Lions du Sénégal devraient recevoir les Étalons du Burkina Faso, les Étalons de mon ami Yacouba Élisée.
Enfin, l'Afrique du Sud, placée dans le groupe K, sera aux prises avec l'Ouganda, le Congo et le Soudan du Sud. Rendez-vous donc en septembre pour le début de ces éliminatoires. Forama, c'est fini. Merci de l'avoir suivi un peu partout dans le monde. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Au revoir.